Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Feuilles Vives, 20e. Au fil des mois, nous avons souvent été amenés à étudier comment les communes rurales peinent à transformer les habitants de leur zone pavillonnaire en citoyens engagés, contribuant à la vie associative, culturelle et commerciale de leur village. Ces rurbains, guidés par l'appât de la sacro-sainte maison individuelle avec jardin, mettent leur progéniture à l'école du village, mais leur cercle de sociabilité, leur mode de consommation et leurs loisirs restent désespérément citadins, et ce, à grand renfort de gasoil. D'anciens grands carrefours commerciaux, lieux de dynamisme et de rencontres il y a quelques décennies, sont devenus, au fil d'une urbanisation incontrôlée, des centres-villes déserts noyés au milieu de lotissements sans âme. Houc est un village de plus de 1500 habitants situé à l'extrémité nord-est de la Petite Beauce. Un territoire plus boisé, plus vallonné que l'immense plaine de Beauce, la vraie, la grande, séparée de la petite par la forêt de Marchenoir. C'est la deuxième année que Sarah Éloire enseigne l'histoire et la géographie au collège d'Houc. Cette année, elle a monté un ambitieux projet de classe patrimoine qui s'articule autour de trois intervenants. Une architecte, un conteur et une plasticienne pour apprendre à voir et à entendre le patrimoine de son village.
L'objectif du projet, c'est de faire en sorte que les élèves s'intéressent à leur espace proche, qu'ils aient un petit peu, qu'ils découvrent aussi leur espace proche sous un nouveau jour. Donc il y a deux volets à ce projet. Il y a d'abord un volet compter, parce qu'habiter un espace, c'est aussi des gens. Donc les élèves ont interviewé des anciens du village qui sont venus parler de Houc, de leur façon d'habiter Houc. Et ensuite, à partir de leurs témoignages, ils vont réaliser des comptes et faire, lors de la journée des portes ouvertes, des balades comptées dans le village de Houc, pour les parents, mais aussi pour les habitants de Houc. Le deuxième volet, c'était l'architecture. Donc on a constaté qu'à Houc, il y avait des façades qui étaient intéressantes. Il y avait notamment une façade art déco sur le café de la Renaissance. Donc les élèves, qui travaillent cette fois-ci avec Nelly Monnier, vont réaliser une structure, une sculpture, qui sera ensuite exposée de façon permanente dans le village de Houc avec des émaux. Voilà. D'accord. Donc l'objectif, c'est rencontrer des artistes, c'est aller dans des musées et c'est pratiquer aussi les arts. Parce qu'ils ont souvent un regard très négatif sur cette commune. C'est un espace agricole, un espace rural, et ils ont pas une très bonne opinion. Donc l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a plein de choses qui se sont passées à Houc et que je veux aussi qu'ils deviennent des acteurs du territoire. Donc je trouve que l'idée qu'ils fassent une sculpture, c'est pour leur montrer aussi qu'ils peuvent, en agissant, laisser une empreinte et créer une certaine dynamique aussi dans un espace. Donc il y a l'idée vraiment de revaloriser un patrimoine local et un patrimoine plutôt rural, qui est un peu délaissé par les habitants, qui se tournent plutôt vers des espaces urbains. Voilà, c'est ouais. Ça aussi derrière.
Donc qui habitent ici,
ouais.
Mais qui sont tournés vers
Vendôme. Blois, Vendôme, et qui finalement ne s'intéressent pas du tout à ce qui est autour de chez eux. Et je pense que c'est important qu'on éduque leur regard, qu'ils apprennent à voir des choses qui sont sous leurs yeux. Et donc c'est ça aussi l'intérêt du projet, de leur montrer que même dans le plus petit village de France, même à Houc, il y a des choses qui se sont passées et que Houc n'est pas en dehors de la grande histoire. Donc c'est ça aussi le fil conducteur de mon projet.
T'es ok là ? Parce que comme t'étais absent, tu vois ce qu'on fait là ?
Oui, pas trop. Ouais.
Donc on fait les interviews, tu te souviens ? Sur notre projet, donc on va écouter monsieur et madame qui vont venir parler de leur vie à eux. Donc toi, en fait, sur ta feuille, tu vas noter des mots qui te semblent importants, des mots que tu voudras ensuite réutiliser dans ton histoire ou qui, sur lesquels tu as envie de leur poser des questions. D'accord ?
Papa a commencé à aller en tournée avec les communes pendant la guerre de 14, où il y avait plus de personnes, beaucoup moins de personnes valides, c'était des anciens et puis les très jeunes qui. Et il se souvient d'une grand-mère à vieille vie, d'une personne très âgée, mais ça c'était en 1914, une personne très âgée à ce moment-là, lui dire: j'ai vu votre grand-père oui, grand-père, je crois, venir en sabot de bois avec une hotte pour vendre du fil, du coton. À ce moment-là, c'était, le poisson, c'était seulement des harengs salés. Mais, venir en colporteur.
En colporteur. Vendre dans les petits villages.
C'était la période 1850, peut-être.
Bien sûr.
Et alors, après, il a acheté un cheval de voiture. Bon, il y a eu une progression, une expansion. Le grand-père avait cédé à ses deux fils, et qui ont exploité après un commerce de vin. À l'époque, le commerce de vin était très florissant parce que vous savez que les exploitations agricoles avaient beaucoup de personnel et les battages provoquaient énormément de travail. Quand il y avait deux entrepreneurs de battage ici avec plusieurs équipes, quoi. Et c'était une douzaine d'employés qui suivaient. Alors, dans une ferme assez importante, il y avait une très grande tablée. Alors nous, on livrait en barrique à ce moment-là.
D'accord.
En barrique de 220 litres, 110 litres. Ça a été, il y a eu une époque très florissante et puis qui est tombée complètement en disuétude avec l'apparition du matériel agricole.
On va aboutir au mois de juin à le jour de la journée porte ouverte du collège à une balade contée où les élèves, parce qu'après il y a le travail d'imaginer les contes et après il va y avoir le travail de les dire.
Jean-Claude Botton, conteur sur le projet de classe patrimoine.
Donc c'est un projet conséquent et qui aborde les différents aspects. Et après, c'est effectivement les mettre aussi en situation de, eux, ouvrir leur imaginaire pour aller vers le patrimoine. C'est-à-dire que c'est de faire le pont sans arrêt entre les deux. Et comme il y a l'autre classe qui va travailler sur le patrimoine bâti, sur l'architecture avec le CAUE, et avec une artiste plasticienne, avec la création d'éléments de décor urbain... donc on va voilà, l'idée c'est, moi je dis souvent que le conteur il est là pour établir des ponts, quoi. Donc là dans ce projet là on établit des ponts entre les générations, entre les anciens et les jeunes, on établit des ponts entre des éléments de la réalité d'autrefois mais qui ont été fondateurs pour ces gens-là, et puis des gens qui sont en train de se construire, des élèves qui sont en train de se construire. Voilà, c'est qu'est-ce qui est important dans la construction d'un individu. Enfin, moi, l'autre jour, je leur ai raconté des éléments que le village avait été un élément important pour moi, avec, je connaissais tous les habitants, je rentrais dans toutes les maisons, que voilà, c'était... c'est quelque chose qui m'avait aidé à grandir, quoi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les éléments de patrimoine bâti, par exemple, c'est aussi la découverte de choses de la vie, quoi. Et de les faire s'interroger sur l'actualité. Parce qu'en fait, on est toujours là aussi, hein, c'est une autre passerelle, quoi. C'est l'ancien temps, on va dire, ou autrefois, comment c'était, et puis aujourd'hui, et puis même un petit regard vers le futur, quoi. C'est-à-dire, de quoi, moi, gamin de 12 ans, de quoi j'aurais envie pour plus tard, à la fois au niveau des maisons, du mobilier urbain, de choses comme ça.
Alors, là nous allons avancer au 19e, et qu'est-ce qui se passe au 19e? Eh bien, le commerce s'étoffe, et qu'est-ce qui se passe? Hop,
décroisement.
Exactement, décroisement. Et du coup, la rue qui relie ces croisements, elle va devenir très intéressante. Et faire du commerce parce qu'il y a beaucoup de passages, donc on n'est pas bête, on va pas s'éloigner des axes, c'est comme une vitrine, on la met dans la rue qui glane beaucoup de personnes. Et puis aussi au 19e, on va commencer à légèrement mécaniser l'agriculture, donc du coup on va pouvoir exploiter plus, ça veut dire vendre plus, ça veut dire que sur les marchés il y a beaucoup de monde, c'est intéressant de mettre des boutiques et des cafés et des restaurants. Et donc, Ouk, qui est un carrefour commercial très important, va développer ses cafés, ses restaurants et ses boutiques. Là, vous voyez bien qu'en fait, on est encore dans l'ancien centre. Ça, c'est l'ancienne église. qui a été démolie, celle du 12e. Vous voyez bien que c'est le cœur de Houk. On a une place, on a les commerces et on a les lieux.
Là, il y a écrit charcuterie.
Oui.
Donc à la place, il y a une boulangerie et il y a un espèce de tunnel. Et il y a encore ce tunnel. Est-ce que c'était une rue avant?
Un passage, oui. Ouais,
c'était une rue avant?
Oui, mais si vous voulez, parce que du coup, je pourrais envoyer les plans du 19e et comme ça, vous pourrez étudier la différence entre aujourd'hui et le 19e. Ah mais oui, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et on a oublié l'importance, parce que là, vous voyez...
C'est pour ça qu'on travaille dessus, effectivement.
Et on voit bien, voilà, que partout sur le trottoir, ce sont les agriculteurs qui viennent vendre directement leurs biens. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il n'y avait pas de supermarché, hein, c'est on vient chercher les biens.
Mais en fait, je pense que ça n'a pas tellement changé parce que...
Non.
Parce que juste les choses qui ont changé, c'est les noms sur les...
Sur les rues
sur les rues, sur les bâtiments, enfin voilà.
Bah oui, il y a moins de passages aussi, il y a moins de monde qui connaissent tout. Il y a du monde, je veux dire, c'est moins... Là, il y a plus de passages qu'avant. Avant, à Manon, on voit moins de passages.
Peut-être aussi, parce que regarde, il n'y avait pas de voiture. Donc, les espaces entre les villes étaient plus longs à franchir. Et Houk avait du coup une position très intéressante entre Vendôme et Bouloir. Donc, on s'y arrêtait plus.
L'intérêt déjà, en tant que citoyen aussi, c'est-à-dire qu'ils comprennent une histoire, ils comprennent comment une économie, non seulement l'économie d'ailleurs, mais plein de facteurs définissent, construisent un territoire.
Angélique Goblet, chargée d'études au Conseil en architecture, urbanisme et environnement, principal partenaire du projet de classe patrimoine.
Comment ce territoire, en fonction de données historiques mais plus larges, c'est-à-dire au niveau national, il peut se déconstruire. On a vu notamment les pics, par exemple... Le début de l'ère industrielle qui a commencé à vider la population de leur village et puis qu'à un moment donné, on a réintégré des zones industrielles dans la campagne, donc on a regagné en population, qu'on a créé des supermarchés, donc du coup le rôle de rencontre, la fonction de rencontre du centre-bourg, elle se dilate, elle se dilue, elle existe beaucoup moins. Donc du coup, les rapports sociaux en pâtissent. En fait, ils comprennent non seulement qu'il y a une forme urbaine, mais qu'il y a aussi une façon de vivre à l'intérieur du village qui change.
D'accord. Et donc l'image qu'ils avaient au début, que c'est un coin paumé où il n'y a pas grand-chose à faire...
Ça a toujours été comme ça.
Elle n'est pas forcément fausse, mais disons qu'ils savent d'où elle vient.
Ils savent qu'elle n'a pas toujours été comme ça, et qu'au contraire, il y a eu des richesses, il y a eu des moments de joie, qu'on a essayé de donner justement une identité à Houk, peut-être en compétition avec une voisine. Donc ça, voilà, ça permet aussi de dire, on avait envie de développer notre identité, notre lien à nous. Ils ont compris, autour de ça, qu'il y avait quand même aussi une recherche de l'esthétisme. On a parlé un petit peu de matériaux et qu'on essayait aussi de rendre un peu plus beau son cadre de vie par des petites touches. Donc ils ont compris qu'effectivement, à un moment donné, il y avait un petit peu plus, je dirais pas d'honneur, c'est pas le terme, il y avait plus d'orgueil à développer sa cité qu'aujourd'hui, voilà.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette image-là de beaucoup de nos villages ou de notre petite ville?
Parce que c'est peut-être la réalité, c'est-à-dire qu'on a, on a développé, et puis, développé l'habitat, et puis que cette notion de centralité, d'identité locale et de vie du bourg, elle se dilue dans beaucoup d'endroits quand même.
D'accord, et donc ça se traduit comment concrètement? C'est des modes de construction,
Alors oui, ce qu'on a vu aussi avec les élèves, c'est que le bourg qui était dense, qui était lieu de regroupement, au fur et à mesure, il a été entouré, encerclé de zones pavillonnaires qui sont déconnectées de ce bourg-là, effectivement, où au contraire, à la place d'avoir des maisons accolées et qui créent une unité urbaine, eh bien, on a une maison sur une parcelle, et puis on les enchaîne et on les éloigne du bourg à l'infini.
Oui, ces maisons-là, elles sont pas caractéristiques d'ici, quoi.
Voilà. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'après, c'est un prototype industriel, voilà, qui se cale un produit commercialisé, en gros. Voilà, comme on pourrait mettre une voiture, eh bien, on met un pavillon. Sur les paysages ouverts, forcément, dès qu'on étale ces ceintures pavillonnaires et qu'elles se retrouvent à l'extérieur, ce sont elles qui donnent une nouvelle identité. Et l'identité, justement, d'un copier-coller qui n'est pas spécifique au sol. Donc après, en termes de paysage, on a vu, d'ailleurs ça a été expliqué aux enfants, qu'il y avait des massifs forestiers qui ont disparu. Donc, tout ça met en valeur justement, j'allais dire, les apports extérieurs, assez étrangers au vocabulaire d'origine, mais qui font partie de leur temps finalement. Mais peut-être que des aménagements paysagers aussi permettent d'adoucir le passage du grand champ paysager ouvert à ces éléments extérieurs qui viennent faire des ruptures assez brutes, souvent, entre le bourg et l'espace cultivé. Et effectivement, ce qu'on construisait sur 100 ans au 19e, c'était peut-être un cinquième de territoire d'une commune que ce qu'on a pu construire entre les années 60 et 70. Donc forcément, proportionnellement, ça impacte beaucoup plus le paysage. Puisqu'en 30 ans, on construit plus qu'en 100 ans. Et puis, avec des matériaux et puis une culture qui se perdait. C'est-à-dire qu'on était capable de mettre des enduits verts, des enduits oranges. Voilà, on était dans la mode de l'époque.
Alors, l'idée générale, donc, c'est de construire un bâtiment ou une structure qui va accueillir les mosaïques des élèves.
Nelly Monnier, artiste intervenant sur le projet Classe Patrimoine.
Donc la première semaine, c'était une semaine essentiellement de découverte de la couleur, des notions qui tournent autour de la couleur pour qu'on puisse choisir des carreaux ensemble d'abord. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis commencer à réfléchir aussi aux motifs. Et donc je leur ai parlé de cette frontière entre art nouveau et art déco, entre les formes très organiques, très souples, qui font référence à la nature, et puis les formes ensuite plus symétriques de l'art déco, qui sont présentes sur la façade de la Renaissance et qui correspondent aux dates, pour qu'eux puissent se les approprier et les réutiliser en fait dans la construction qu'on va faire ensemble. Donc cette semaine, c'était couleur et puis début de motif. Et puis quand je reviens en avril, on va travailler vraiment la technique de la mosaïque, et à travers des petites formes moulées, en fait, comme un jeu de construction, on va essayer de voir comment on peut élaborer peut-être un banc, peut-être une table, peut-être juste un mur d'angle, en fait, qui va accueillir les mosaïques.
Allez, on se range, s'il vous plaît. Nelly, elle va vous expliquer quelque chose. Donc, vous vous rangez, vous écoutez bien la consigne. On se range et on écoute bien la consigne. Alors, on va être dans le village, on est attentif. OK ? C'est dangereux, il y a des voitures.
Alors on va d'abord commencer par aller voir le Café de la Renaissance qu'on a étudié ensemble lundi. Et ensuite on va faire une petite promenade dans la rue qui est derrière le Café de la Renaissance où on a vu qu'il y avait quelques mosaïques et carreaux peints. Et ensuite on va aller voir les endroits où on pourrait installer des mosaïques en juin. Les endroits que le maire nous a proposés. Et donc pendant toute la promenade, vous allez donc à la fois prendre des notes sur ce qu'on va vous raconter, réfléchir au circuit avec Madame Éloire. Et puis, vous pouvez aussi prendre des notes de dessins, de formes que vous allez voir dans la ville pour vous aider ensuite à réfléchir à des motifs pour la deuxième partie de la séance.
C'est ici, là.
Regardez derrière vous.
Regardez là, ici. Là, il y a la porte blanche. Ouais, là, c'est un... Ah, il y a du carrelage de
pain. On retrouve le carrelage de pain.
Regardez les couleurs là, les associations de orange de la tuile. Ouais, tout à fait. Alors juste une petite remarque. Écoutez-moi, peut-être que probablement la rue qu'on emprunte, c'est peut-être l'endroit où se trouvait l'enceinte de la ville. Peut-être que vous vous souvenez, Madame Goblet nous a montré une carte où il y avait une enceinte, une muraille autour de la ville de Houck.
Oui, c'est ça.
Il est fort probable, effectivement, qu'elle passait par ici et qu'on l'a détruite ensuite pour construire de nouveaux bâtiments.
Vous êtes l'enceinte du château.
Non, le château était par là. Allez, on continue.
Là, vous avez plein de choses. Pourtant, c'est une maison qui est très modeste.
C'est super joli. Il y a
beaucoup de décorations.
Ici, c'est une interrogation. Ça, c'est pas une maison qui est très décorée. C'est quelqu'un qui est sans doute effectivement qui vient d'un milieu modeste, un milieu ouvrier,
peut-être qu'il était employé dans un commerce, on ne sait pas. En tout cas, cette maison, elle est décorée et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que la personne travaillait dans la maçonnerie, est-ce que... On ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, ce n'est pas une maison qui appartenait à quelqu'un de très riche. Mais en tout cas, il y a un décor.
Il faut s'inspirer des
femmes. Regardez, il y a effectivement une frise, il y a du carrelage peint.
Je pense qu'il y a aussi... Enfin, j'espère qu'il y a une... On contribue à une certaine valorisation du village ou des environs, parce que finalement, être attentif à des détails, à des teintes qui au départ leur paraissent pas très intéressantes, et des matériaux voilà, comme la pierre ou la tuile plate qui les intéressent peu au départ. Finalement, voilà, c'est quelque chose qu'ils apprennent, qu'ils peuvent apprendre aux autres, qu'ils remarquent. Voilà. J'espère que ça... Parce que je me souviens une fois, l'année dernière, quelqu'un m'avait dit que les élèves avaient une vision assez... assez sombre ou assez triste en fait de leur environnement, et voilà, j'espère que par le biais de ces ateliers on arrive un peu à changer le sens de, enfin à changer un peu leur vision des choses quoi. On passe de ah bah c'est la rue de ma mère qui tient la fromagerie, ou la rue où il y avait avant l'infirmière de ma grand-mère, voilà, bah c'est la rue où il y a tout un tas de petits détails très intéressants qu'on va pouvoir faire remarquer à ses parents quand on repassera. Voilà, ça se rajoute à l'histoire, enfin à leur expérience de la région, quoi.
On n'est pas dans un cours traditionnel magistral, et je pense qu'en faisant, en rencontrant, ça leur permet d'apprendre beaucoup de choses et d'être plus autonomes et de retenir aussi plus de choses de leur scolarité. Voilà, donc c'est aussi une pratique pédagogique. Moi, j'aime faire des projets et j'ai envie que les élèves apprennent en faisant et en étant acteurs et en appréciant leurs cours. Voilà, en prenant du plaisir à venir en cours et à apprendre des choses.
D'accord. Et justement, leur attitude par rapport à ces cours, c'est...
Oui, ils sont hyper motivés. Les intervenants les trouvent très calmes, très gentils. Et ils sont impressionnés par leur capacité à retenir, mais ils retiennent parce qu'on est dans un contexte où ils ont l'impression de s'amuser. Et je pense que pour apprendre, il faut aussi s'amuser. Que l'apprentissage, ça doit passer par le jeu. Donc voilà, c'est aussi ça qui me motive de mettre en place ces projets. Je pense que là, on a vraiment quelque chose qui permet aux élèves de gagner en autonomie. Ils travaillent tout, ils travaillent le français, ils travaillent les arts, ils travaillent aussi le travail de groupe, comment on s'organise, comment on communique entre nous. Donc voilà, il y a plein de compétences qui sont développées, qu'ils développent à travers ces projets.
Et c'est là que réside la valeur pédagogique du projet, une histoire et une géographie appliquées à l'échelon très local de l'environnement quotidien. La rencontre, la découverte et la création sont des outils pédagogiques égalitaires qui permettent d'intéresser les élèves en difficulté et de les mettre en position de réussir. On écoute Sarah Éloire.
Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un village qui est un petit peu en déprise, mais néanmoins, il y a un petit peu de développement de population qui quitte Blois pour venir s'installer ici. Donc on a du périurbain, c'est une population rurale un peu fragile. On a quand même des CSP, des catégories socio-professionnelles dans l'ensemble assez fragiles dans l'établissement. On a un profil d'élèves curieux, mais qui ne vont pas forcément vers la culture. Donc l'idée aussi, c'était de faire venir la culture à eux. Parce qu'ils ne vont pas forcément aller à Blois lorsqu'il y a un spectacle ou aller dans un musée. Mais par contre, quand la culture est là, ils sont super motivés, ça les intéresse. Donc c'est ça mon peut-être plus d'ouverture, quoi. Voilà, je pensais que ça manquait un peu d'ouverture culturelle. Il y a une certaine homogénéité sociale, même si on a aussi d'autres CSP un peu plus favorisés, mais néanmoins, on a une population qui peut être très fragile. Et je trouve que ces projets-là leur apportent de la confiance aux élèves. En tout cas, ils prennent confiance en eux. Et puis une ouverture culturelle, ça me semble important. Voilà. Et je pense que c'est ça le regard que j'avais et qui m'a motivée aussi. Je me suis dit, il faut apporter de la culture et une ouverture sur le monde. Voilà. J'avais des intervenants qui ne connaissent pas les élèves comme moi je les connais et qui me disent « Ah, oh, cet élève est super pertinent, il participe. » Et c'était souvent des élèves qui étaient très fragiles, qui étaient en échec scolaire. Dans les matières beaucoup plus où on leur demande un exercice scolaire, ils ne sont pas forcément en réussite. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est des élèves qui ne sont pas en réussite scolaire qui sont intéressés, qui sont pertinents, qui participent, et on crée aussi des conditions de réussite pour ces élèves-là. C'est ça aussi le Collège pour tous, c'est être capable de créer des projets qui vont mettre les élèves en situation de réussite. Donc ce type de projet, ça permet à ces élèves-là de s'épanouir et d'avoir du plaisir à être en classe. Parce que oui, effectivement, peut-être qu'une rédaction, ils vont moins bien réussir. Mais là, on leur demande de l'analyse, et ben, ils vont être bons parce qu'on est à l'oral, parce que là, la production, c'est pas scolaire. Donc ça, pour moi, c'est le côté positif de ce projet.
D'accord, mais des fois, ça peut être juste l'aspect formel de l'institution qui peut créer un blocage. Oui,
puis la variété des intervenants, qui ne sont pas des profs, qui ne parlent pas comme des profs, qui leur permettent de découvrir des métiers, qui leur permettent de s'émerveiller. Et quand Madame Goblet est venue et qu'elle a parlé de Houk et de son passé, moi, j'étais très contente quand les élèves ont dit à la fin, bah, finalement, il s'est passé plein de choses, Madame Houk. C'est pas si naze. Bon, voilà, ça c'est l'objectif de ce projet. Et c'est vraiment un projet pour tous. Et il n'y avait pas de. On n'a pas sélectionné les élèves. C'est une classe qui est très hétérogène. On a des élèves qui sont brillants, on a des élèves qui sont en grande difficulté. Et ça c'est bien. Parce que souvent, des projets, si on fait des petits clubs, c'est toujours les mêmes élèves, c'est ceux qui sont motivés. Et là, c'est un projet qui justement vise tout le monde. Et c'est ça l'objectif. Ben, j'espère que ça créera plus de liens entre le collège et la commune. Je pense que c'est important. Moi, j'ai l'impression que le collège, c'est un peu une île dans la commune. Et je pense que c'est très important qu'il y ait plus de liens et d'échanges entre la commune, la collectivité et ce collège. Que ce soit un collège ouvert. Et un collège ouvert, c'est aussi accueillir les habitants et aussi que les élèves montrent qu'ils s'intéressent à leur espace, à leur territoire vécu. Je pense que c'est ça, moi. J'aimerais bien. Que ce soit vraiment un espace plus ouvert sur l'extérieur et sur son espace proche et ses habitants. Donc juste pour les gens que j'ai fait venir, ils étaient super contents de venir et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'on les invitait au collège et qu'ils étaient très contents. Donc ça change aussi l'image du collège qui est une petite île dans la commune.
Voilà. Et ces jeunes actifs qui habitent les zones résidentielles et qui envoient leurs enfants ici, c'est aussi ceux qui vont être le moins impliqués dans la commune.
Ouais.
Et donc par contamination, presque, on intéresse les enfants à la commune.
Voilà, et donc les parents. Et c'est ce que les enfants m'ont dit pendant qu'on faisait la balade. Là, il y a un petit Mathéo qui m'a dit « Vous savez, madame, j'ai appris plein de choses à mes parents. Ils ne savaient pas tout ça sur la commune. » Donc c'est aussi par le biais des enfants, oui, effectivement, que leurs parents se disent « Ah ben finalement, il y a aussi des choses sympas à Houk. » Il y a des choses... Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Je pense revaloriser l'image de Houk par le biais des enfants auprès de leurs parents.
Et c'est la fin de cette 20e émission de Feuilles Vives. Nous étions au Collège d'Houk aujourd'hui pour documenter le projet de classe patrimoine mis en place par la professeure Sarah Éloire et par le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Derrière ce projet pédagogique ambitieux se cache un immense travail d'observation, de recherche documentaire et de recueil de témoignages. L'histoire récente de nos bourgs ruraux et de leur dynamisme perdu a été enfouie au fil de mutations drastiques et souvent destructrices. La généralisation de la voiture individuelle, l'expansion urbaine incontrôlée, la mécanisation et les remembrements agricoles ont, en quelques décennies, complètement reconfiguré les circuits commerciaux, les pratiques culturelles et les identités paysagères. Ce faisant, c'est toute une chaîne de transmission pluriséculaire que nos choix politiques ont endommagée. Aujourd'hui, écologie, mise en valeur paysagère, attractivité et dynamisme ruraux prennent une place croissante dans l'agenda des collectivités locales. Le passé proche de nos campagnes, en train de glisser entre les doigts de notre mémoire commune, fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt renouvelé. Cette période de dynamisme commercial, de beauté paysagère et d'identité culturelle marquée a sans doute de quoi nous inspirer face à la morosité ambiante. Il devient urgent de prendre le temps de s'y intéresser. Retrouvez ce reportage dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. On reste au nord du département la prochaine fois avec un projet d'épicerie participative du côté de Thoré-la-Rochette. Bon week-end et à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin dans sa basse-cour une poule fort étrange.
Tiens donc, Mélie, viens d'en voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait...